Radio Okapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Tous les projets financés en faveur du Kassa Oriental sont à reprendre et les détourneurs doivent être poursuivis. Déclaration de José Panda, ministre de la Recherche scientifique et innovation, qu'il a dit hier en Bujimaï. Il a été dans la délégation du chef de l'État lors de sa tournée dans le Grand Kassai. Le corps scientifique de l'université de Gbadolite emboîte les pas à leurs collègues de Kinshasa et entame une grève sèche de ce lundi 10 janvier. Même cas avec ceux de l'ISP Mbanzangungu. Tous revendiquent la paye au grade statutaire des assistants et chefs de travaux sous-payés. Début effectif des programmes de désarmement communautaire et des chronogrammes des activités à mener sur le terrain. Tommy Tamboué, coordonnateur national de ce programme, nous en parle après sa mission d'une semaine en Ituri. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Plusieurs projets financés en faveur du Kassa Oriental n'ont pas impacté positivement sur la vie de la population de la province. Cette déclaration a été faite au cours d'un point de presse tenu hier dimanche par le ministre national de la Recherche scientifique. Selon José Panda Kabangu, tous les projets sont à reprendre et les détourneurs doivent être poursuivis. José Panda Kabangu, ministre national de la Recherche scientifique, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
On disait qu'on n'a rien fait au Kassai. Nous nous entretuons nous-mêmes. Nous qui rencontrons le président régulièrement, nous qui venons ici, c'est nous qui faisons du mal au président. Tshisekedi a fait sa part, mais il y a beaucoup de voleurs. Nous sommes étonnés de ce qu'on a vu. Tshilegelo, zéro. Daipen, zéro. Kwadi, zéro. Ce que j'ai dit là, je l'ai vécu moi-même. J'étais à côté du chef de l'État. J'ai entendu les gens en train de parler qu'on nous a trompés ici. Les gens en train de parler comme dans un tribunal public. Si le chef de l'État n'était pas robuste, il allait tomber. Les mensonges. Nous qui sommes nombreux aux côtés du président, nous sommes des voleurs. Il n'y a rien qu'on a réalisé. Les fonds ont été débloqués. Les gens se sont distribués ces fonds-là. Il faut qu'ils disent la vérité. Qu'on arrête les gens pour qu'ils restituent les fonds détournés. À Kananga, sur le site Katende, on a trouvé le matériel en bourse. Pourtant, les fonds ont été débloqués il y a peu, 6 millions de dollars. En Gandanjika, nous avons vécu des choses étonnantes. Voilà pourquoi les gens ne voulaient pas que le chef de l'État arrive. Moi, je suis content pour cette visite. Si nous voulons voir le changement, il faut les gens de bonne volonté qui connaissent la souffrance du peuple. En tout cas, les projets de développement du chef de l'État sont à reprendre. Il n'y a rien qui a été réalisé.
Autre nouvelle, depuis l'explosion d'une bombe artisanale à Beni le soir de Noël, le gouverneur du Nord Kivu a décidé d'avancer l'heure de couvre-feu à 19h dans les villes de Beni et Butembo. La majorité des habitants de Butembo, Sadiki Aboubakar, salue cette mesure qui ne va pas sans quelques conséquences pour le quotidien de la population de cette ville commerçante.
La majorité des habitants que nous avons interrogés salue la mesure du gouverneur destinée à protéger la population, mais certains pointent des difficultés qu'occasionne un couvre-feu instauré dès 19h. C'est le cas de cet énoncé des restaurants.
L'idée est géniale, sauf que on ne sait pas si c'est à partir de 19h qu'il y a une sécurité ou qu'on peut mettre des explosifs dans nos services.
L'heure du couvre-feu perturbe également le secteur des médias. Plusieurs radios et télévisions de Butembo ont bouleversé leur programme habituel. D'autres ont même supprimé des éditions. Le directeur de la radio Salama, Jérémy Kiasokira, affirme que l'un de ses techniciens a été arrêté dans la nuit du au 2 janvier pour violation du couvre-feu.
Notre journal est fini à 19h. D'office, celui qui présente le journal sort de la radio à 19h, à ses risques et périls, bien sûr. Et dernièrement, l'un de nos techniciens a été arrêté par les patrouilleurs. Il a même passé nuit au cachot et libéré le matin, le lendemain, moyennant une somme de 200 000 francs congolais. Donc c'est quelque chose que nous dénonçons.
D'autres travailleurs s'accommodent bien de ce couvre-feu qui n'induit aucune conséquence sur leur travail. C'est le cas de Vivi, une couturière.
À ce qui me concerne, je termine mon boulot à 17h, je suis déjà à la maison, je me rends même pas compte qu'il y a couvre-feu.
Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
En justice, la cour militaire de Kinshasa Matete rendra son verdict ce lundi dans le procès du meurtre de Rossi Mukendi, cet activiste du mouvement citoyen Debout le Congo, tué à Kinshasa lors d'une manifestation pacifique du comité laïque de coordination CLC en 2018. L'ordonnance de prorogation du prononcé confirme ce verdict après l'audience ratée du 3 janvier. Des attentes sont nombreuses de la part des parties civiles. Rappel de fait avec vous, Jeff.
Tout remonte au 25 février 2018. Rossi Mukendi, 36 ans, tombe sous des balles alors qu'il participe à une marche du CLC réclamant l'alternance au sommet de l'État par le départ de l'ancien président Joseph Kabila avec la tenue des élections. Quelques jours après, son père fait une crise et meurt. C'est en 2021 que s'ouvre son procès. Dans le box des accusés, on trouve la principale inculpée, Karine Lokes, commissaire supérieure adjointe et un de ses gardes du corps, Tokis Kumbo. Franco Bivouala, un troisième, met en cavale jusqu'à présent que les partis civils présentent comme celui qui a appuyé sur la gâchette. Tout au long de ce procès, plusieurs témoins ont comparé, notamment un expert en balistique et un médecin légiste qui ont interprété le rapport médical de la mort de Rossi. Après plusieurs reports, en décembre dernier, le ministère public requiert 10 ans de prison ferme contre Karine pour violation des consignes et meurtre par participation criminelle et la servitude pénale à perpétuité contre Tokis Kumbo, mais les inculpés clament toujours leur innocence. Ce lundi donc, les partis civils attendent de ce verdict la condamnation des accusés et la réparation du préjudice subi. Selon Arsène Chimanga, frère de Rossi, l'arrêt de la cour permettra à la famille de commencer le deuil et d'enterrer dignement son frère. Ce sera aussi un motif de soulagement et de pansement des blessures pour tous les martyrs de la démocratie, déclarait-il lors de la dernière audience. 11 millions de dollars sont exigés par les partis civils au titre des dommages et intérêts.
Grève sèche à l'université de Gbadolité de ce lundi. Le corps scientifique de cet établissement en a pris la décision également en vue d'emboîter les pas à leurs collègues de Kinshasa. À l'issue d'une assemblée générale tenue samedi dernier, les chefs de travaux et assistants, bibliothécaires et autres corps scientifiques de l'UNIGBA ont décidé la cessation immédiate du travail jusqu'à l'aboutissement heureux des négociations en cours sur leurs revendications entre le banc syndical, les corps scientifiques et le gouvernement central. Le représentant des enseignants de l'UNIGBA, Faustin Goto, est revenu notamment sur ses revendications et en a fait le point de leur décision au téléphone de Paul Richard Malingela.
C'est aujourd'hui au cours d'une assemblée générale des corps scientifiques. L'assemblée a décidé d'emboîter les pas à l'Association nationale des corps scientifiques. Oui, à l'UNIGBA, il y avait eu l'ouverture de l'année académique 2021-2022. Mais il se dit que les corps scientifiques ont emboîté les pas pour suivre les communiqués lancés par l'Association nationale des corps scientifiques qui décrète la grève sèche parce que les enseignants ne sont pas bien traités. Il y a des enseignants qui travaillent, qui ne sont pas mécanisés. Et il y a de ceux-là qui sont mécanisés mais qui ne sont pas payés. Les gens sont payés, non pas selon leur grade. Un chef de travaux qui est payé comme un assistant. Vous savez que les recommandations soulevées par nos collègues de ces universités, ça nous concerne tous. Nous, on fait accepter le travail, mais on ne fait pas travailler seulement pour le bon plaisir, mais on travaille pour avoir quelque chose parce que nous avons des responsabilités. Nous avons les enfants qui doivent aussi étudier parmi eux. Et les enfants des anciens n'ont pas fait exception de payer les frais académiques et autres choses.
Même situation avec le chef de travaux et assistant de l'USP Mbanzangungu dans le Congo central, qui eux aussi rejoignent leurs collègues de Kinshasa. Ils évoquent comme raison de leur décision la précarité des conditions socio-professionnelles dans laquelle ils sont plongés depuis plusieurs années. Avant de reprendre le travail, ce dernier exige entre autres du gouvernement la paye au grade de statutaire des assistants et chefs de travaux sous-payés. Leur déclaration est lue par le chef de travaux Samba. Il est au micro de Nana Plurichemambo.
Nous, membres du corps scientifique de l'Institut supérieur pédagogique de Mbanzangungu, vu la précarité des conditions socio-professionnelles dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs années. Vu la déclaration de l'intersyndicale de l'enseignement supérieur et universitaire du 29 décembre 2021, vu le mouvement général de grève décrété par les SINACAS, syndicat national des chefs de travaux et assistants de la RDC, décidons d'entrer dans le mouvement de grève générale sèche pour réclamer ce qui souffre. 1. La mécanisation et la paye des chefs de travaux et assistants NU et NP. 2. La paye au grade statutaire des assistants et chefs de travaux sous-payés. 3. L'amélioration des conditions salariales des membres du corps scientifique de toute la RDC, c'est-à-dire 50% pour l'assistant de premier mandat et 115% pour les chefs de travaux par rapport au salaire du professeur ordinaire.
Et puis, les cérémonies des obsèques de Mgr Tarsis Tshibangu Tshishiku, évêque émérite du diocèse de Mbujimayi et président du conseil d'administration des universités du Congo, débute ce lundi ici à Kinshasa, mort aux cliniques universitaires de Kinshasa le 29 décembre 2021 à l'âge de 88 ans. Son inhumation aura lieu le mercredi 12 janvier prochain. Compte tenu de la dimension de sa haute personnalité religieuse et académique, le programme des funérailles est réparti en 3 journées. On écoute à ce propos le président de la commission des obsèques, Gilbert Kakonde Malamba, qui donne le programme au micro de Richard Junior Kamunga.
La première journée, c'est lundi 10 janvier 2022. Nous aurons la cérémonie d'hommages académiques, scientifiques et culturels. Et ces hommages sont organisés au Musée national de Kinshasa. Il durera de 10h à 18h. Donc il s'agit des hommages qui vont lui être rendus sur le plan institutionnel par le monde universitaire. Il y aura des hommages scientifiques avec des présentations, des témoignages, des personnalités scientifiques, des domaines d'intérêt que Monseigneur a pu embrasser dans sa carrière. Ça va du théologien, de sciences prospectives, jusqu'à la neuroscience. La deuxième journée, c'est la journée du 11 janvier 2022, qui est réservée à la cérémonie d'hommages officiels, et cela se passera sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et la cérémonie aura lieu au Palais du Peuple à partir de 11h. Et l'inhumation proprement dite aura lieu le mercredi 12 janvier 2022 dans l'intimité familiale à la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse.
Autre nouvelle, on parle santé dans cette édition du journal. 7 décès de rougeole viennent d'être signalés dans le secteur de Toulongué en territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu. Les victimes sont des enfants des déplacés en provenance de Lukolo, en territoire de Kabambari, dans la province du Maniema. La maladie survient dans une zone sans structure sanitaire fiable. La société civile locale appelle à la prise en charge médicale d'urgence des enfants victimes. François Avimibi.
Les premiers cas de la rougeole ont été enregistrés le 4 décembre dernier dans le village de Toulongué, l'aire de santé de Lubichako, de la zone de santé de Kingebulenge. Nous sommes en territoire de Fizi dans le sud Kivu, mais dans une zone frontalière qui sépare le sud Kivu du Maniema et du Tanganyika. Lukolo au Maniema est à 2 km de Toulongué du Fizi, mais à 400 mètres du village des quatre coins du Tanganyika. Une zone séparée par la rivière Kiyimbi qui part du Tanganyika, se jette dans la rivière Luama, qui passe par les territoires des Fizi et va se jeter enfin sur le fleuve Congo dans les Maniema. L'attaque de la rougeole fait 10 victimes parmi les enfants des populations de déplacés des Lukolo. Une situation qui affecte la société civile locale. Le coordonnateur de la structure parle des malades sans toute défense médicale. Olivier Luamba.
Les gens de Lukolo voudraient maintenant rentrer dans leur place d'origine. Mais leur rougeole attaque les enfants. Cet enfant qui sont déjà décédés. Il n'y a pas personne qui vienne de nous rendre le service.
Rappelons que les affrontements signalés en début de décembre dernier entre la milice Touad de Mundoussi et les éléments FRDC partis des Lukolo au village de Crespin ont contraint les populations des Lukolo de fuir vers Toulongué pour raison de leur sécurité. Kalemi, François Djabimbe, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'observatoire volcanologique de Goma, OVG, vient encore de réceptionner ce week-end un deuxième lot de matériel de surveillance pour les 2 volcans actifs de la chaîne de Virunga. Il s'agit des volcans Nyiragongo et Nyamulagira. C'est une dotation du gouvernement congolais pour permettre à cette institution de mieux surveiller les volcans qui surplombent la ville de Goma, selon le directeur général de l'OVG, le professeur Adalbert Moindo. Bernardine Diambo.
Pour le directeur général de l'OVG, ces matériels sont arrivés au moment opportun. Ils vont permettre à l'OVG de bien mener sa mission, mais aussi améliorer la capacité de précision des données en ce qui concerne la localisation des tremblements de terre notamment. Le docteur Adalbert ajoute que Comme le volcan Iragongo est dans une activité intense, ces matériels vont aider aux volcanologues de comprendre réellement ce qui se passe dans les cratères. Le coût de ces matériels n'a pas été révélé, l'occasion pour ces responsables de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir tenu de sa promesse. Signalons que, selon l'OVG, le niveau d'alerte du volcan Iragongo reste le jaune, donc vigilance. L'OVG intensifie des observations des descentes sur terrain et de son réseau de surveillance. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Réunie en sommet extraordinaire dimanche 9 janvier à Accra, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a frappé fort contre le Mali. Les autorités de Bamako venaient de proposer une prolongation de la transition militaire de 4 ans au lieu de 5, un délai jugé inacceptable par l'organisation ouest-africaine. Les nouvelles sanctions de la CEDEAO, jusque-là ciblées contre les personnalités de la junte malienne, sont lourdes. Gel des avoirs au sein de la BCAO, fermeture des frontières avec les États membres, suspension des transactions et retrait des ambassadeurs. En tout cas, ces décisions isolent le Mali.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Tommy Tamboué. Il est le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Il a achevé dimanche sa mission en Ituri après une semaine de séances de travail avec les différents acteurs engagés dans ce processus. Il s'agit par exemple, donc, dans ce qu'il évoque, la préoccupation relative au début effectif de ce programme de désarmement communautaire et des chronogrammes des activités à mener sur le terrain. Tommy Tamboué s'entretient ici avec Jean-Claude Loki Dile. Suivez.
Tommy Tamboué, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que la population iturienne peut comprendre justement ou retenir de l'actuel programme des DDCS? À quoi il est différent des autres qui ont été exécutés dans cette province?
Le PDDRCS est la quatrième génération des programmes DDR qui ont existé dans ce pays. Depuis la réunification du pays en 2003 jusqu'en 2021, nous avons connu trois types de générations du DDR. Et le DDR 4 a une spécificité. Il y a beaucoup d'innovations. Le DDR ancien n'intégrait pas la justice transitionnelle. Les anciens programmes n'avaient pas la dimension des combattants étrangers et des groupes armés étrangers. Donc, les combattants étrangers et les groupes armés étrangers. C'est beaucoup d'innovation.
Concrètement, par exemple, qu'est-ce qui sera fait en termes de projets concrètement à Bounia ou en Ituri? Parce que précédemment, justement, on a vu des jeunes gens qui sont sortis de la brousse. Et puis après, parce que les moyens n'ont pas suivi, ils sont retournés en brousse. Quelle garantie, justement, vous donnez à la population iturienne, donc qui a tant souffert de tout ce qu'il y a comme atrocité? Voilà, pour que ces jeunes gens ne puissent plus retourner et que finalement les touristes retrouvent la paix.
D'abord, il y a la volonté politique du chef de l'État. Parce que de tous les programmes, on disait, il y avait manque de la volonté politique. Mais aujourd'hui, il y a la volonté politique du chef de l'État. Deuxièmement, le gouvernement a décidé de mettre aussi les moyens du trésor public. Ce qui était différent des autres programmes qui dépendaient que la main de l'extérieur. Et quand ça bloquait, c'est fini, le programme est tombé en faillite. Mais aujourd'hui, nous avons le budget de l'État, nous avons la ligne budgétaire du trésor public, mais également, il y a les interventions extra-budgétaires en provenance des partenaires bilatéraux et multilatéraux.
Vous pouvez citer deux ou trois projets qui seront exécutés dans le cadre de règlement communautaire, dans le cadre de stabilisation, par exemple.
D'abord, il faut dire qu'il y a des projets qui sont en cours. Quand nous avons hérité le programme STAREC, il y avait des projets de stabilisation qui étaient déjà en cours. Ces projets doivent continuer, ils sont en train de continuer jusqu'aujourd'hui. Il y a des projets qui doivent être validés par les communautés. C'est la raison pour laquelle, dans chaque province que nous visitons, nous organisons des ateliers de consultation. Ce sont les communautés et même les chefs coutumiers, les administrateurs du territoire et toutes les personnes, les députés provinciaux, les députés nationaux originaires de la province qui sont dans des ateliers, les associations, les jeunes, les femmes, les opérateurs économiques. Vous le voyez, ils sont dans des ateliers en train de travailler pour identifier effectivement les besoins locaux et des besoins de stabilisation, des besoins de cohabitation pour que effectivement le désarmement, la démobilisation et la réinsertion puissent être faciles.
Ça signifie qu'il y a un travail qui a déjà été fait en amont. Et est-ce qu'on connaît le budget de ces programmes? Si ça tourne autour de combien?
Non, je ne peux pas vous dire aujourd'hui avec précision le budget tourne autour de combien. parce que les besoins, nous sommes en train d'identifier les besoins, identifier les sites de regroupement. Nous sommes en train de travailler, donc nous sommes en train de faire l'état des lieux. Et donc, à l'issue de ce travail-là, que nous verrons, parce que d'ici quelques jours, nous allons commencer les discussions sur la stratégie nationale. Et la stratégie nationale consiste à intégrer les attentes des parties prenantes. Et donc, nous sommes venus les consulter. Et par la suite, nous ferons un deuxième, après la validation de ce que nous appelons la stratégie nationale, il y aura maintenant le plan opérationnel annuel pour chaque province. Cela, dans le plan opérationnel, nous ferons encore un travail comme ceci. Nous allons, les experts vont se mettre au travail, préparer les drafts, et le draft sera validé encore par les parties prenantes. Alors viendra seulement la phase d'implémentation. C'est là que vous verrez maintenant les ONG en train de se mettre en danse pour dire, moi je vais intervenir dans le volet eau, dans le volet assainissement, dans le volet rapatriement, ainsi de suite.
Cette étape-là, ça peut arriver dans combien de temps? Un mois, six mois, une année?
Non. Je vous ai dit que d'ici le 15 de janvier, nous commençons les discussions qui vont se clôturer le 5 février. Donc après le 5 février, c'est fini. Donc moi, je me dis que le travail a commencé, mais c'était un processus. Nous ne voulons pas commettre les erreurs. Nous ne voulons pas regrouper les gens quand les moyens ne sont pas là. Vous voyez, les erreurs du passé, c'est aussi ça. L'engouement venait, mais les moyens ne sont pas encore disponibles. Nous ne voulons pas ça.
Tommy Tambo, je vous dis merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.